Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous terminerons aujourd'hui la lecture du livre « Monsieur le curé fait sa crise » écrit par Jean Mercier. Si nous avons lu comment et pourquoi l'abbé Benjamin Bourquoi s'est emmuré volontairement dans le livre, nous avons vu aussi comment, et en plus tout seul, il a été capable de s'emmurer avec du matériel somme toute assez simple, mais le sortir de là sera bien plus compliqué et même très dangereux. C'est pourquoi M. le maire et son personnel de techniciens bien particuliers et équipés de matériels spéciaux doivent intervenir. Et c'est avec l'extraction de l'homme vivant, M. l'abbé Benjamin Bucquoy, que nous commencerons notre dernière partie du livre, écrit par Jean Mercier. Je vous propose de lire tout de suite le chapitre 22. Chapitre 22. Une délivrance à eau frais. Depuis des semaines déjà, Georges Garnuchot, le maire de la commune, a multiplié les études techniques pour mener à bien la délivrance de l'emmuré, qui doit inéluctablement avoir lieu un jour et qui n'a que trop tardé. Le problème est complexe. Les experts déclarent tous que, quel que soit l'endroit par lequel on l'entamera, le cabanon menace de s'effondrer comme un fétu de paille sur la tête de Benjamin. Mais le maire a tout de même fini par décider de passer à l'action. Le jour fixé pour la destruction du cachot, vers 11h du matin, les équipes techniques de la mairie renforcées par une entreprise venue spécialement de la capitale effectuent plusieurs sondages afin de faire une brèche là où le mur semble le plus fragile et où l'usage de la force sera donc le plus limité. À l'intérieur, Benjamin prit les psaumes de sa voix claire et haute. Le jardin du presbytère et le chemin des oubliés ont été investis par les équipes de sécurité civile de la mairie, les pompiers, la gendarmerie et un détachement du SAMU. Au même moment, dans l'église, une foule prie pour la réussite de l'opération. Au premier coup de pioche, un fracas assourdissant se fait entendre. Le cabanon s'effondre d'un bloc dans un nuage âcre et tourbillonnant. Un silence de fin du monde se fait. Les pompiers s'emploient aussitôt à dégager méthodiquement l'amoncellement des gravats moyennant quelques jurons. Au bout de 5 minutes, sous une tonne de poussière, on retire le corps du reclus. Difficile de distinguer sa chemise sombre de son col romain, tout blanc. Benjamin ressemble à un croque-mort à la figure duquel une boîte de talc aurait explosé. Est-il mort ? Non, répond le médecin du SAMU, tâtant son pouls. Il faut le transporter d'urgence à Paris, où des équipes médicales de haut niveau pourront tenter de le sauver. Chapitre 23. Un réveil saugrenu. Quand Benjamin se réveille enfin de son coma, une semaine plus tard, il écarquille les yeux à la vue des mines réjouies de Brigitte Charbonnier et de Guillemette de la Fosse Repose, présentes toutes les deux à son chevet, l'une à droite et l'autre à gauche du lit. « Non, monsieur le curé, vous ne rêvez pas !» commence Brigitte. « Quel bonheur de vous voir !» enchaîne Guillemette. « Mesdames, vous ne pensiez tout de même pas que j'allais me priver pour toujours de vos crépages de chignon pour une botte de tulipes ?»« Eh bien, on a eu quand même très peur de le voir aller planter nos fleurs sur votre tombe !» riposte Guillemette. En entendant la voix masculine résonner dans la chambre, l'infirmière chef, Ostrebert Radigois, fait irruption. Sa puissante chevelure blonde ressemble à une choucroute meringuée, et lui donne des faux airs de Madame Thatcher. « Quoi ? Le curé s'est réveillé ? Mais c'est un miracle !» En fait de miracle, ça n'est vraiment un. Benjamin semble avoir récupéré toute sa tête. Or, Ostrebert Radigua, tout comme son patron Fabrice Gaillette, grand professeur de la faculté de médecine, redoutait que le curé soit réduit à l'état de courgette bouillie. La moins bonne nouvelle est que les membres inférieurs de Benjamin ont quand même été sévèrement atteints et qu'il a de bonnes chances de rester handicapé. Mais bon, il est vivant! Quelques semaines plus tard, Benjamin quitte enfin l'hôpital pour un centre de thalassothérapie situé au bord de la mer à Granville. Entre le moment de son réveil et son départ, un défilé ininterrompu de visites a jalonné ses journées. Parmi celles qui ont le plus compté, il y a eu celle du père Maurice. Lui aussi vient de sortir de l'hôpital après son infarctus. Lui aussi s'en est sorti à un cheveu près. Les deux hommes s'embrassent affectueusement, comme deux frères que la vie ferait se retrouver après des siècles de séparation. Chapitre 24. Exilé chez les vieux. Tu es sérieux? M'envoyer à la maison Saint-Joseph? Chez les croulants? Tu veux vraiment m'installer dans ce mouroir? Tu plaisantes, j'espère. Les yeux de Benjamin fulgurent de colère et ses lèvres tremblent d'indignation. En face de lui, Jean-Philippe Vignon passe et repasse son index gauche dans son col romain comme s'il cherchait à l'élargir. Un geste caractéristique lorsqu'il est gêné par la situation qu'il doit gérer. La réaction de Benjamin ne le surprend pas, mais il n'est pas question de revenir sur une décision qu'il estime nécessaire. « Je sais, Benjamin, tu viens de fêter tes 51 ans. » Ce n'est donc pas de gaieté de cœur que je te demande de rejoindre les prêtres les plus âgés du diocèse, dont la moyenne d'âge est de 88 piges. Je sais aussi que tu t'es battu comme un lion pour ne pas sombrer dans le désespoir quand on t'a annoncé que tu ne récupérerais pas tes jambes. Je t'admire. Mais tu sais, à la maison Saint-Joseph, il y a tout le matériel médical nécessaire à tes soins et le personnel qui va avec. » L'évêque marque une pause et reprend sur un tempo plus lent, la voix voilée par l'émotion. « Pour être franc avec toi, je te dirai que mon problème principal est que je ne sais pas encore où je peux te mettre. » Je ne crois pas que tu puisses redevenir curé de paroisse. Il va falloir inventer quelque chose de nouveau, être créatif, et on a besoin de temps pour ça, tu ne crois pas ? Benjamin se recroqueville, triste comme une carpe japonaise, lui qui, 2 minutes plus tôt, fulminait comme un dragon chinois. Tout ce que vient de lui dire son évêque est vrai. Il finira ses jours dans un fauteuil roulant, c'est vrai. La prise de conscience progressive de cette réalité l'a plongé dans un véritable abattement. Elle implique une révolution pour son avenir. Benjamin fait le deuil de l'usage de ses jambes, du plaisir de danser, bouger, sauter, courir, flâner, mais aussi de la merveilleuse liberté d'aller et venir. Il découvre jour après jour une dépendance humiliante, notamment pour des besoins très naturels. Pour lui, l'horizon est ouvert comme un mois de brouillard en Écosse. Benjamin lutte contre la tristesse, non seulement en pensant à son passé perdu, mais aussi à son avenir fichu. Même si, dans son cabanon, il s'était déjà persuadé qu'il n'était pas fait pour être curé, c'est-à-dire pas vraiment fait pour commander un navire, et que sa fuite était une façon de protester qu'il était d'abord un prêtre, un thérapeute des âmes. quand il a quitté l'hôpital, Ostrebert Radigua lui a d'ailleurs glissé dans le creux de l'oreille. « Monsieur l'abbé, nous sommes faits du même bois. Vous êtes comme moi, vous voulez soigner les gens. Hélas, de plus en plus on nous demande à nous les gradés de faire de l'administratif, de remplir des cases sur l'ordinateur, d'établir des photocolles. Pff, quel ennui! Heureusement que je suis en fin de carrière. Et après, dès le premier jour de ma retraite, en dépit de mes manières de grande dame, je vous jure que j'irai m'occuper des clochards dans la rue ou torcher les petits vieux à l'hospice. » Profondément ému par le mutisme de son prêtre, Jean-Philippe ajoute « Je t'assure, je ne te laisserai pas tomber. Quand tu te seras retapé, je te promets que je te trouverai quelque chose de bien. Je ne t'oublierai pas. » Mais en se quittant, tous deux continuent à ruminer la même question. Est-il vraiment possible d'être prêtre quand on n'a plus de jambes?
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 25. La force dans la faiblesse. Et 10 de der. Benjamin n'en peut plus. C'est au moins la 10e belote de la journée. Il est vrai qu'il vaut mieux taper le carton que rester affalé devant la télé, mais tout de même. Dans les EHPAD, où il allait rendre visite aux personnes âgées, du temps où il était curé, il y avait des tas d'activités intéressantes. Le jeu de mémoire le lundi, la peinture le mardi, la gym le mercredi, l'atelier d'écriture le jeudi, la chorale le vendredi. Mais ici, à la maison Saint-Joseph, la seule animation est la messe tous les jours à 10h30. Désormais, il la concélèbre assis auprès de ses compagnons et ça lui fait terriblement bizarre. Du haut de ses 75 ans, sœur Marie-Eulalie veille, main d'acier dans un gant de téflon sur le destin de la maison Saint-Joseph et de ses 48 pensionnaires. Dans sa longue carrière d'infirmière, cette religieuse de l'ordre des Oblates de la Sainte-Épine a dirigé une kyrielle de dispensaires dans le monde entier. Tous les résidents la vénèrent et avec une sainte déférence, les prêtres l'appellent entre eux leur « maîtresse-femme ». Quand l'un de ses pensionnaires rechigne, pudeur sacerdotale oblige, à exposer son arrière-train pour une inéluctable piqûre, elle s'exclame, telle Sarah Bernard dans l'Aiglon, « Mon père, rassurez-vous, j'ai vu les fesses du monde entier. Les vôtres ressemblent sûrement à celles de notre Seigneur, sauf qu'il les avait plus rebondies que vous, rapport à sa jeunesse. » Pour autant, personne n'oserait imaginer que la pieuse sœur Marie-Eulalie se soit vue révéler cet aspect de l'incarnation du Christ dans une vision mystique. Le doyen des résidents, le père Hubert Bivor, a 111 ans. Il a été ordonné en 1936, quelques semaines après l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Dire sa première messe sous Léon Blum, ça pose son homme tout de même. Il a été résistant pendant la guerre, puis déporté dans un camp de la mort. Il a encore tout son haut, mais plus son bas. Peu après ses 100 ans, il a fallu l'amputer de ses deux jambes, rongées par la gangrène. Au moins, je ne risque plus d'aller courir les filles. Benjamin déjeune chaque jour avec un vieux prêtre qu'il a connu autrefois quand il était très jeune. Le père Guy Tonne, alias Petit Poussé. Cet homme a perdu l'usage de son pouce droit, enfant, lors d'un accident de vélo. « Je suis circoncis du pouce, mais ce n'est pas ça qui m'a empêché de donner l'absolution des milliers de fois. Peut-être Dieu voulait-il simplement m'éviter de passer mon temps à tapoter sur des claviers. » Et puis, il y a le père Sulpice Bougon. Il est devenu aveugle il y a une vingtaine d'années à l'âge de 68 ans. C'est un homme très doux et toujours joyeux. Un jour pluvieux où Benjamin n'avait pas du tout le moral, il a demandé à voix basse au père Sulpice le secret de sa bonne humeur. « Oh, Benjamin, tu sais, ça n'a pas été facile de se remettre à sourire. J'ai perdu la vue suite à une erreur chirurgicale. J'ai été en dépression pendant près de 3 ans. Je n'acceptais pas. Et puis, j'ai reçu une immense grâce du Seigneur. J'ai retrouvé ma joie le jour où j'ai réalisé que je dépendais de tout le monde. Cela paraît aberrant de dire ça, mais la dépendance radicale permet de s'abandonner vraiment à l'amour de Dieu. Cela implique cependant d'endormir sa volonté de puissance. » Le père Sulpice a poursuivi malicieux. « Et puis, vois-tu, être aveugle m'a obligé à développer mon ouïe, qui est désormais très fine. Cela me permet de sentir dans la voix des gens que je rencontre leur état émotionnel. Par exemple, Benjamin, je sens quand tu es tendu, inquiet ou plus souriant. Parfois, je sens l'état des gens avant même qu'ils ne parlent, simplement à la façon de prendre leur souffle quand ils s'apprêtent à parler. Ce matin, j'ai senti ta tristesse avant même que tu ne me l'exprimes verbalement. » Chapitre 26. Un foyer de la miséricorde. Jean-Philippe Vignon n'en revient toujours pas de cette journée abracadabrante, unique en son genre dans ses annales épiscopales. À 11h du matin, il est venu présider en tant qu'évêque les obsèques de sœur Marie-Eulalie à la chapelle de la maison Saint-Joseph. Celle-ci est partie d'un seul coup, comme ça, une attaque cérébrale, ont dit les médecins. Tous les vieux prêtres étaient encore sous le choc pendant la messe. C'est qu'ils l'aimaient bien, franchement, leur maîtresse-femme. Et puis, qui va piloter leur quotidien désormais? Cette dernière question tournoie depuis des jours dans la tête de Monseigneur Vignon, telle une mouche piégée sous un verre. L'évêque ne voit pas trop à qui il pourrait confier cette mission guère folichonne, d'accompagner vers leur dernière demeure ces braves curés dont les facultés motrices et intellectuelles s'éteignent comme des cierges devant la statue de Saint-Antoine de Padoue dans sa cathédrale. Lentement, mais sûrement. Après la messe, alors que la famille de sœur Marie-Eulalie lève le verre de l'amitié avec les quelques résidents qui ne sont pas déjà remontés dans leur chambre pour cuver leur affliction, Benjamin retient son évêque avant qu'il ne reparte vers d'autres devoirs inhérents à la gent mitrée. « Jean-Philippe, pardonne-moi de te retenir. Il y a 4 mois, quand tu m'as demandé de venir habiter ici, j'étais terrifiée. Mais au fil des jours, j'ai appris à mieux accepter mon handicap en côtoyant ses compagnons prêtres. J'ai pu découvrir des trésors de présence et de sainteté derrière ces corps apparemment défaits, usés, difformes. Petit à petit, ils m'ont permis d'accepter ce que je considérais comme inacceptable, ma perte d'autonomie, l'humiliation d'être handicapé. Lorsque sœur Marie-Eulalie est partie au ciel, j'ai eu un déclic. J'aimais beaucoup cette femme admirable. J'ai beaucoup discuté avec elle durant tous ces mois où j'ai appris et même réappris à vivre ici. Il me semble que j'ai reçu une sorte d'appel, que je me dois de te soumettre en tant qu'évêque. Je te demande l'honneur et la faveur de lui succéder à la tête de la maison Saint-Joseph. » Jean-Philippe Vignon a sursauté, comme s'il avait pris un coup de jus. Benjamin poursuit, galvanisé. « La plupart de mes frères prêtres vivant ici ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien. Le ministère leur manque et l'Église fait comme s'ils n'avaient plus d'oreilles pour écouter, plus de main droite pour absoudre, Or, je pense que les prêtres âgés d'ici peuvent encore rendre de grands services à l'Église, notamment à travers la confession. Tu te souviens des centaines de personnes qui ont débarqué pour me parler quand j'étais dans mon cabanon, à travers un trou dans un mur, et à genoux en plus? Tu me diras que le battage médiatique autour de ma disparition y était pour beaucoup, c'est sûr. Mais je crois que les gens sont de plus en plus en quête de cet amour du Christ dont nous sommes les médiateurs. La maison Saint-Joseph est au centre de la ville et pas plus loin de la gare. Il y a du monde qui passe. Je crois que cette maison de retraite peut devenir un foyer débordant de la miséricorde du Seigneur pour l'humanité. Et toi, mon évêque, tu peux m'aider à réaliser cette vision.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Chapitre 27. Épilogue, quelques mois plus tard. Allô ? C'est Jennifer Duploux. Pardonnez-moi de vous déranger. En voyant s'afficher un numéro inconnu, Benjamin ne s'attendait pas à tomber sur la charmante personne qui lui avait si bien tiré les vers du nez lors de sa réclusion. Il a appris cependant que cette interview a spectaculairement accéléré la carrière de la journaliste qui a intégré la rédaction d'un grand quotidien parisien. Je vous appelle car je fais une enquête sur les mutations de l'Église catholique en France. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Seriez-vous prêt à m'éclairer encore davantage ? Benjamin vient en effet de publier un petit opus où il fait le point sur son expérience 2 ans après son coup d'éclat. Il confie ce qu'il a vécu entre ses murs, la conversion face à son orgueil et à sa jalousie, à sa peur maladive de ne pas être reconnu par l'institution. Il y raconte également comment il est sorti de sa profonde dépression au contact, notamment, d'autres prêtres diminués, affaiblis, dont l'amitié l'a aidé à accepter son propre handicap. Il explique que son aura médiatique lui a permis d'attirer des dizaines de personnes en quête de guérison intérieure vers ses vétérans du sacerdoce. Ce que Benjamin ne dit pas dans son bouquin, c'est qu'il a pu faire venir à Saint-Joseph son père spirituel, le père Maurice. Contrairement à lui, ce dernier, en dépit de son infarctus, n'a pas besoin de chaise roulante pour se déplacer. D'accord, mademoiselle Duploux, je vous écoute, accepte Benjamin. La journaliste dégaine immédiatement sa liste de questions. Quel bilan faites-vous de votre année comme directeur du foyer Saint-Joseph ? Mes compagnons, tout comme moi, sont handicapés de diverses manières, mais ils peuvent encore être au service de ceux qui ont besoin d'une écoute en toute confidentialité et qui portent des blessures qu'on n'imagine même pas. Ils leur donnent le pardon de Dieu, la consolation du cœur. En retour, ceux qui viennent se confesser ou seulement se confier rappellent à ces hommes qu'ils sont utiles, qu'ils ont une valeur pour l'humanité. D'un point de vue théologique, cela va encore plus loin. Par ce pardon qu'ils donnent au nom de Jésus, les prêtres qui vivent ici ne peuvent jamais oublier qu'ils sont prêtres jusqu'à leur dernier souffle. Leur épaisseur théologique ou métaphysique existentielle est confirmée. Ah, leur épaisseur théologique ou métaphysique existentielle, c'est léger comme une pioche votre affaire. Franchement, ça vous ennuierait de parler en français courant juste pour mes lecteurs. Bon, je vais faire un petit effort. Par cette formule, j'entends l'identité fondamentale d'une personne aux yeux de Dieu, son poids du point de vue de l'autre monde et de l'éternité. Mais encore, je ne vois pas le lien avec vos vieux compagnons prêtres, ni avec vous. Il y a 2 ans, je me suis emmurée car j'avais besoin d'être à nouveau enracinée dans ce que j'étais vraiment, comme je voulais d'ailleurs expliquer à l'époque. J'avais l'impression d'être devenu un fonctionnaire. Je voulais être refondé comme prêtre par les catholiques de ma paroisse, mais aussi par le tout-venant. C'est ce qui s'est passé derrière ce mur, lorsque les gens sont venus me voir. Je me suis réapproprié mon identité de fond, pour employer le mot savant. D'ailleurs, ça continue ici. Je suis devenu handicapé, mais je sais, notamment, quand je donne le pardon de Dieu, que je continue d'avoir une valeur indépendamment de ma non-performance physique, à cause de ma nature profonde. Cela vaut aussi pour mes vieux compagnons de ce foyer. Ils pourraient avoir l'impression d'être devenus inutiles, mais ils réalisent qu'ils ont une valeur inestimable en assumant tout simplement d'être prêtre jusqu'au bout. Si j'ai bien compris, l'essence du prêtre a une place centrale chez vous. Mais il s'agit de conforter les prêtres dans leur identité. On tombe dans une forme de nombrilisme clérical, non? Et les autres, ceux qui ne sont pas prêtres, vous en faites quoi? Cette réappropriation de notre identité profonde est nécessaire à tous, et surtout à ceux qui ne sont ni prêtres ni diacres. Il faut que les laïcs se réapproprient leur identité aux yeux de Dieu et des autres du point de vue théologique. Cela passe par une prise de conscience de ce qu'ils sont par leur baptême. Voilà la vraie révolution dont l'Église a besoin, la réforme fondamentale. Et c'est valable pour tous les chrétiens, catholiques, protestants et orthodoxes. Cette affaire va beaucoup plus loin que des bouleversements de structures inévitables dont tout le monde parle ici et là. Que certains prêtres aient délocalisé leur presbytère dans un camping-car, qu'ils sautent en parachute pour lever des fonds, ou que sais-je encore, c'est très bien, certes. Ces initiatives sont bonnes, mais l'essentiel est que les baptisés redécouvrent le pouvoir énorme que le Christ leur donne par le baptême. Ah bon, un pouvoir énorme? Oui, on parle du pouvoir que le prêtre reçoit quand il est ordonné, celui de pardonner les péchés et de changer le pain en corps du Christ et le vin en son sang. Mais on oublie plus souvent de parler du pouvoir que l'on reçoit dans le baptême. Le baptisé sous-estime ou méconnaît l'autorité que lui donne le Christ pour guérir, proclamer le royaume de Dieu, chasser les esprits mauvais, ressusciter les morts. Chasser les démons et ressusciter les morts? Vous êtes sérieux? Oui, tout à fait. Mais entendons-nous bien. Il ne s'agit pas pour les baptisés de jouer les exorcistes ou les guérisseurs tout-puissants, ni de se prendre pour Jésus, mais de laisser le Christ agir à travers eux, et en particulier à travers leurs faiblesses. Cela implique à la fois une grande humilité et une réelle audace, celle de la confiance en celui qui peut tout faire en nous, même si nous ne le voyons pas toujours, même si nous ne nous en sentons pas capables. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne croient pas assez qu'ils sont. Ils ont en eux cette autorité du Père qui leur vient du Fils par l'Esprit Saint. Souvent même, ils n'y croient pas du tout. Si c'était le cas, ils feraient plus de miracles qu'ils ne le pensent. La journaliste a un peu le tournis en terminant son appel. L'abbé Bucquoy a non seulement des idées bien campées, mais une force apparemment insubmersible. De son côté, Benjamin a tout juste raccroché que le téléphone sonne à nouveau. Grrr ! Encore un de ces gars qui veulent caser des panneaux photovoltaïques ou une cuisine ultramoderne dans la maison. Laissons bosser le répondeur, râle-t-il. Mais subitement, il se ravise. Un fort accent italien se fait entendre à l'autre bout du fil. « Bonjour, je suis Monseigneur Albertini. » Benjamin répond du tac au tac. « Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Merci Jean-Philippe, tu es très fort. Tes talents d'imitateur n'ont pas de limite. Quel bon vent t'amène. Silence au bout du fil. Puis la voix reprend d'un ton un peu sec. Non, ce n'est pas un canular. C'est bien le nonce apostolique qui vous appelle. Et pour une affaire très sérieuse. Oh, enfer et damnation. C'est vraiment lui? Benjamin aurait dû reconnaître sa voix, car il l'a rencontré par hasard il y a 6 mois lors du pèlerinage à la maison Saint-Joseph à Lourdes. Monseigneur Albertini se racle la gorge et reprend d'un ton solennel. Le Saint-Père a décidé de vous nommer évêque de N. Il pense que vous êtes l'homme de la situation pour ce diocèse rural, très affaibli démographiquement et économiquement, qui a de gros soucis financiers, très peu de prêtres en activité et des laïcs assez âgés en perte d'énergie. Et aussi, pour être très franc, il y a une vieille affaire d'abus sexuels à gérer. En fait, je vous avoue que votre livre a beaucoup ému le pape. Il a déclaré à votre sujet « Cet homme a une vision, donnons-lui les moyens de l'appliquer. » Il fera un excellent évêque de N. Surtout s'il arrive à rendre leur élan aux prêtres de plus de 80 ans, qui sont extrêmement nombreux là-bas. La sueur perle sur le front de Benjamin. Son sang pulse à toute vitesse dans son thorax. Sa bile chahute dans ses viscères. À peine parvient-il à bredouiller 2 ou 3 borborygmes inintelligibles. Je vous laisse 48 heures pour me répondre, poursuit le nonce. Si vous vous sentez incapable, c'est plutôt bon signe. Tous les prophètes ont pris peur devant l'appel de Dieu. L'un a dit qu'il était trop inexpérimenté, l'autre a invoqué son bégaiement. Vous avez tous une bonne excuse. Vous, par exemple, je suis certain que vous allez me dire que vous n'avez plus de jambes. Il est vrai que ce n'est pas courant. Mais ce n'est pas un argument suffisant pour refuser. Dans votre livre, vous démontrez longuement comment l'audace évangélisatrice de l'Église peut coexister avec sa vulnérabilité et ses blessures. C'est très convaincant. On n'a pas besoin d'évêques qui soient des surhommes physiquement, mais d'évêques qui aient la foi et ce que j'appelle une vision. Sans oublier un courage et une humilité à toute épreuve, ce qui est votre cas, paraît-il. Soyez en paix. L'Église vous fait confiance, alors qu'elle connaît vos défauts et vos failles. De toute façon, vous n'êtes plus susceptible de fuir devant les responsabilités, puisque vous avez déjà fui quand vous étiez curé, et que cela vous a servi de leçon, si j'ai bien compris. Donc, soyez confiant, tout ira comme sur des roulettes. Je vous rappelle après-demain. D'ici là, motus et bouche cousue, sauf à votre confesseur, bien sûr. Le nonce a raccroché. Sonné par l'upercute papal, Benjamin ne lui a même pas dit au revoir. Ce sont pourtant des choses qui se font particulièrement avec Monseigneur Albertini. Évêque ? Existe-t-il un job plus difficile ? Benjamin a l'impression de se retrouver seul dans un téléphérique en panne suspendu au-dessus d'un glacier alpin. Du temps où il se sentait si fort, il regrettait de ne pas être suffisamment reconnu par l'institution. Maintenant qu'il lui manque certaines facultés physiques, l'Église lui demande d'être de ceux qui tiennent le gouvernail, d'être de ceux qui doivent trancher les conflits les plus cornéliens, qui risquent les plus injustes procès, qui expérimentent les solitudes les plus âpres, mais de ceux pour qui les grâces promises par le Christ à ses apôtres ne peuvent manquer. Enfin, si l'on a la foi. Le plus vertigineux, c'est qu'on lui demande de mettre en œuvre sa vision. Il faut bien reconnaître qu'il a écrit des pages regorgeant d'idées fortes, notamment sur la mission évangélisatrice dans laquelle la puissance de Dieu se déploie à travers la faiblesse des baptisés. Mais c'était pour les autres, pour que les évêques, par exemple, testent ses idées sur le terrain, qu'ils mettent l'anneau épiscopal dans le cambouis. En quelques tours de roue, Benjamin se trouve dans la chambre du père Maurice et lui déballe tout. Son père spirituel explose de rire. « Ah, tu ne trouves pas que le bon Dieu a le sens de l'humour, Benjamin ? Il se plaît à prendre les prophètes au mot, à mettre les visionnaires au pied du mur, à déloger les saints de leur niche. Être évêque, quelle merveilleuse galère ! J'espère que tu m'emporteras dans tes bagages. » Nous terminons donc aujourd'hui le livre « Monsieur le curé fait sa crise » écrit par Jean Mercier. Il était rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire « La Vie ». Nous avons vu que de par son travail, il était bien au courant des problèmes qui donnent à réfléchir aux églises catholiques aujourd'hui. Il en a tiré une fable passionnante, drôle et qui fait du bien. À bientôt, chers auditeurs, pour partager avec nous un nouveau livre dans l'émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus. Retrouvez-nous sur notre site www.radioallianceplus.fr.